à tous. Merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe au Parlement européen à Bruxelles. C'est en effet une semaine cruciale pour l'exécutif européen et c'est ici même qu'ont été auditionnés les candidats potentiels de la future commission von der Leyen. Et nous recevons aujourd'hui en exclusivité un homme qui sait tout sur cette question et bien d'autres, bien sûr, le président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour, madame. Bonjour, madame.
Bonjour, David Sassoli. Alors, pour vous présenter, il y a seulement 10 ans, votre vie a basculé du journalisme en politique. En 2009, vous êtes élu eurodéputé sur la liste du Parti démocratique, le parti de gauche italien. Et puis, très rapidement, vous devenez vice-président. Puis, en juillet dernier, président du Parlement européen, avec cette intention de conforter le rôle de cette Assemblée face à l'exécutif européen.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même, monsieur le président, en mai dernier, un Parlement qui est beaucoup plus éclaté. Ce n'est plus dominé par deux grandes formations, mais bien par quatre. Le Parti populaire européen à la droite, les socialistes et démocrates, votre parti, c'était les deux partis traditionnels. Et puis maintenant, avec des petits nouveaux, justement, Renew Europe au centre et les Verts. Est-ce qu'il y aura à l'avenir des majorités faciles à trouver, solides pour des grands projets?
C'est un Parlement qui il naît après des élections très importantes. Il y a une droite des forces souverainistes et nationalistes qui veut détruire l'Europe. Et non, les citoyens européens, des 100 millions de citoyens européens, ont dit que l'Europe va renforcer. C'est très intéressant la composition du Parlement parce qu'il n'y a pas de groupes très forts. Et alors, il y a besoin que les forces européistes ont fait des convergences. Ça, c'est la nouveauté de sa législature.
Et alors, pour vous, quelle est la priorité? Alors, je rappelle que vous avez 2 ans et demi devant vous, puisque normalement, au bout de ces 2 ans et demi, vous passez le relais à un président du Parlement qui sera issu, très vraisemblablement, de la droite européenne. Mais la priorité des priorités pour vous?
Deux priorités. La première, c'est de renforcer les instruments de la démocratie européenne. Parce que nous avons des systèmes de gouvernance européens très faibles. On doit renforcer ça. Les Spitzenkandidat, les pouvoirs d'intervention du Parlement, la question des listes transnationales. Ça, c'est très important de préciser mieux dans les systèmes de la gouvernance européenne. Mais il y a besoin de politiques différentes. Les Européens, on a dit à nous de changer les politiques. Pas rigueur. Croissant. Ça, c'est fondamental pour répondre à la question que les opinions publiques ont avancée.
La croissance, c'est la deuxième priorité.
Oui, c'est la croissance de l'Europe.
Il y a la croissance verte, alors, pas la croissance...
Oui, la croissance soutenable.
Soutenable.
Soutenable. Oui,
durable. Et le climat, donc.
Et le climat, oui. Oui. Nous avons vu l'autre semaine une initiative très importante de l'Allemagne qui a fait des investissements très importants sur les politiques du climat. On doit trouver des formules pour permettre à l'Europe de prendre l'initiative de devenir les protagonistes de la saison qu'il y a besoin de mettre les planètes et toutes les choses au centre de l'initiative politique.
Alors, vous parlez de ce qu'il faut faire dans les prochaines années, mais en attendant, il y a un Brexit impossible avec un certain Boris Johnson qui est imprévisible, qui est en train de marquer très fortement cet agenda européen, qui finalement occupe les sommets européens, beaucoup de temps et de discussions sur ce Brexit, et les choses progressent au ralenti.
L'accord de l'année passée, c'est le meilleur accord possible. C'est Londres, c'est M. Johnson, il y a des autres idées, il peut les avancer. Nous sommes disponibles à discuter tout, avec amitié, avec les Anglais. Mais il n'y a pas de propos qu'il va avancer maintenant.
Quel jeu il joue pour vous, Boris Johnson?
Maintenant, il n'y a pas de propos. Et alors, pour nous, il y a l'accord.
L'accord l'absence de proposition
que nous avons trouvé, c'est le meilleur accord possible.
Et la date du 31, vous y croyez toujours?
Mais c'est un problème de la Grande-Bretagne.
C'est pas un problème européen.
Oui, mais il est possible de supérer seulement s'il y a des des propositions nouvelles.
Alors, toute la semaine a été marquée, effectivement, par les auditions des commissaires européens destinés à siéger sous la présidence von der Leyen. Coup dur d'ailleurs pour l'Allemande. Deux d'entre eux n'ont même pas franchi cette étape. Ils ont été recalés pour conflit d'intérêts d'entrée, la Roumaine et le Hongrois du PPE. Ça tangue donc aussi beaucoup pour d'autres candidats. C'est ce que nous explique tout de suite ce reportage.
Feu orange pour Sylvie Goulard lors de son audition au Parlement européen. La candidate proposée par la France pour le poste de commissaire au marché intérieur n'a pas convaincu. Les eurodéputés ont pointé l'enquête en cours sur les soupçons d'emploi fictif des assistants MoDem au Parlement européen et sa rémunération de 12 000 euros par mois par le think tank américain Berggruen. Sylvie Goulard, qui a affirmé « I am clean », a aussi fait valoir la présomption d'innocence. Une défense pas assez transparente pour les groupes politiques de droite comme de gauche. Elle n'a obtenu en effet que le soutien de son propre groupe, les libéraux de Renew, qui vont lui soumettre des questions écrites avant une éventuelle seconde audition. Cet épisode fragilise encore plus la commission von der Leyen qui a déjà vu deux de ses commissaires récusés et ce, avant même leur audition. Le Hongrois Laszlo Trocsányi du Parti populaire européen et la social-démocrate roumaine Rovana Plumb pour conflit d'intérêts présumés. L'office antifraude européen, l'OLAF, a cependant écarté des poursuites le Polonais Janusz Wojciechowski. Le commissaire désigné à l'agriculture avait préalablement été prié de rembourser 11 250 euros de frais de voyage litigieux. Le PPE et les sociaux-démocrates font donc jusqu'ici seuls les frais des récusations, ce qui pourrait aussi expliquer la pugnacité des attaques contre Sylvie Goulard, la candidate d'Emmanuel Macron. La marge de manœuvre d'Ursula von der Leyen est maintenant très étroite. Après n'avoir été confirmée par les députés qu'avec une majorité de 9 voix seulement, elle n'a maintenant que jusqu'au 23 octobre pour faire valider la totalité de sa commission.
David Sassoli, alors comme on vient de l'entendre, le dégagisme a frappé déjà avant même les auditions pour la Roumaine, la socialiste roumaine, le Hongrois du PPE. Comment vous réagissez à ces nouvelles-là? Pour vous, c'est un mauvais casting en fait?
Ben, c'est un mécanisme de transparence démocratique. Et le Parlement, il prend au sérieux ce genre d'initiative pour garantir une composition des commissions les plus transparentes possibles. Les commissaires, il y a beaucoup de pouvoirs. Et c'est juste, c'est légitime qu'il s'oppose à un contrôle du Parlement.
Oui, c'est un énorme processus qui est assez inédit quand même. Hein. Ça ne se passe pas au niveau national, on est d'accord. Ça, c'est pour le côté positif. La commissaire française, Sylvie Goulard, aussi en difficulté, bien qu'elle soit, du point de vue du Parlement européen, dans la légalité, à la fois pour la question des emplois fictifs et pour la question de sa rémunération par un think tank américain. Alors, ça pose une autre question pour vous, Monsieur le Président. Est-ce qu'il faut changer les règles et limiter les activités extérieures des députés européens beaucoup plus?
Oui, mais il y a déjà ces mécanismes de contrôle. Toutes les choses qu'ils regardent, tous les candidats à la Commission, ils sont clairs, ils sont publics. Et ils sont publics parce qu'il y a des contrôles du Parlement, des organismes indépendants qui font ces vérifications des positions sur les conflits d'intérêts. Et ça, c'est une mesure très, très transparente maintenant. Toutes les choses qu'ils vont à publier, à lire sur la presse, sur les journaux, ils sont des notices qui viennent dans l'institution européenne.
Et donc, pour vous, ça aussi, c'est pour montrer que le Parlement, finalement, montre les muscles?
Oui, ça c'est. Il y a un peu de différence avec les législatures passées, parce que les parlements maintenant, il est composé pour les 60% des parlementaires nouveaux. Et ça, c'est une très belle expérience, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité. Et il y a une composition du Parlement qui il démontre maintenant très autonomie. Les parlementaires, ils sont très autonomes respect au groupe parlementaire.
Il y a aussi une autre polémique qui a fait beaucoup de bruit, c'est sur l'intitulé du ministre censé couvrir les questions migratoires, ce commissaire qui sera un commissaire à la protection de notre mode de vie européen. Alors pour vous, c'est beaucoup de bruit pour rien ? Ou alors, c'est une question de principe et il faut mieux nommer les choses.
Je comprends l'esprit de Madame von der Leyen de faire sa référence à l'article 2 du traité. Mais...
C'est-à-dire ?
La solidarité, l'égalité, la liberté, ça c'est juste.
Il y a le mot protéger.
On doit protéger les modes de vie, mais à garantie aussi de l'autre. Alors, on a demandé à Madame von der Leyen, mais ça c'est une question publique, elle a demandé beaucoup de parlementaires à la présidente von der Leyen de modifier sa proposition, sa dénomination. Protection des modes de vie et garantie pour la dignité de l'homme. Alors, les portefeuilles sur l'immigration... Et il rentre très bien dans ces définitions.
Oui, mais c'est connoté. Il y a cette idée de se protéger. Ça fait penser à la forteresse Europe.
Ça, c'est un mot qui est possible d'équivoquer.
C'est équivoque.
D'équivoquer. Et alors que je pense que c'est mieux d'intégrer avec la dignité de l'homme, la tutelle, la garantie pour la dignité de l'homme, la définition de ces portefeuilles.
Mais c'est comme si le mot migration était tabou. Pourquoi on ne met pas le mot migration ?
Oui, mais la dignité de l'homme, la dignité de tous les hommes, les hommes qui viennent, les hommes qui se trouvent en difficulté, ils ne sont pas seulement les Européens, hein. Ils sont aussi les autres.
Alors sur la question migratoire précisément, depuis que vos amis du Parti démocrate sont maintenant revenus au pouvoir avec une alliance avec les 5 étoiles, le pays semble avoir assoupli sa position, notamment sur l'accostage des navires qui secourent les migrants. Est-ce que cela change quelque chose par rapport à l'afflux des réfugiés en Europe ? Ce qu'on est en train de décider, ça concerne finalement que 9% de tous les réfugiés qui sont sur le territoire ou qui sont en train de...
Il y a beaucoup de propagande par les nationalistes sur la question de l'immigration. Mais il y a une question très sérieuse. Nous avons vu avec optimisme à la possibilité que de la position à La Valletta, à Malte, on a pris beaucoup de pays d'avancer un propos de collaboration. Ça, pour nous, doit devenir structurel, pas seulement volontaire.
Temporaire, là, pour l'instant,
temporaire,
c'est provisoire.
Provisoire, mais structurel. Et je pense que sa question, il doit poser mieux entre les conseils européens. On doit trouver des solidarités entre tous les pays. Parce que la question de l'immigration, ce n'est pas la question des bâtiments qui arrivent et avec 200 ou 80 ou 150 migrants. Mais c'est une politique qu'elle doit prendre l'Europe. Et on doit donner à l'Europe les instruments pour avoir une politique pour l'immigration. Et je pense que ça, c'est une question fondamentale. Dans le mois de novembre, on va à commencer la discussion sur les MFF, les budgets de l'Europe. Je pense que dans les budgets, on doit consentir d'introduire des conditionnalités. La conditionnalité sur la solidarité.
Et là, vous pensez aux pays de l'Est,
sur les droits de l'homme. Sur les politiques pour combattre les climats,
la lutte
contre les changements climatiques. Trois conditionnalités. On peut avoir un budget plus fort avec ces conditionnalités. Et je pense que ça, c'est la mesure pour donner aussi à l'Europe la possibilité d'avoir une stratégie sur le climat et une stratégie pour l'immigration. Et aussi une stratégie pour défendre l'état des droits dans l'espace européen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle doit discuter avec aucun pays.
Oui, vous voulez parler là des pays de l'Est, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, enfin des groupes des pays du groupe de Visegrad, de la Pologne.
Madame, c'est très bien d'avoir les argent pour faire des métros dans une propre ville, avec l'argent de citoyens européens. Mais c'est bien qu'il y a la solidarité avec les pays qui sont en difficulté. Alors, je pense que c'est possible de trouver un équilibre.
Alors, dans votre pays, d'ailleurs, Matteo Salvini a perdu ce pari d'une élection anticipée. Il se retrouve hors jeu, il n'est plus au pouvoir. En Autriche, on a vu aux dernières élections que le FPE, justement son parti frère, vient de prendre une claque. Est-ce que vous trouvez que l'extrême droite est pour autant en recul ou il faut continuer à se méfier ?
Il voulait détruire l'Europe et les fronts, comment on dit en France,
le rassemblement
souverainiste en Europe s'est divisé. Ça, c'est très important. Et l'effet de l'élection européenne a produit une scène nouvelle en Europe. L'Italie, c'est un exemple de ça.
Mais les causes n'ont pas tout à fait disparu. Les causes de ce qui ont fait émerger.
Non. Maintenant, c'est surtout les forces européistes qu'il doit prendre l'initiative pour une politique nouveau. Ça, c'est la question. Parce que ce n'est pas seulement de dire contre les souverainistes. Non. Pour une politique européenne nouveau. Ça, c'est la question de notre responsabilité maintenant. Et ça, c'est la responsabilité de toutes les forces européistes. Ça, c'est très important. Nous sommes au début d'une législature qui peut être beaucoup politique. Et je pense que toutes les forces européistes doivent sentir, écouter sa responsabilité.
Vous souhaitez une Europe politique. Vous mentionnez l'état de droit.
Oui, la Hongrie, les pays du groupe de Visegrad. Qu'est-ce que vous préconisez pour arriver à les rapprocher des valeurs européennes?
On a écouté avec beaucoup d'intérêt les mots qu'a prononcés la Madame von der Leyen dans la plénière du Parlement européen. Les procédures d'infraction, il va continuer. Et ça, c'est la position du Parlement.
Mais ça n'aboutit pas. Il n'y a aucune procédure ni sanction qui aboutit. Est-ce que ce n'est pas insuffisant? Est-ce qu'il faut d'autres outils?
Mais l'initiative, maintenant, c'est du Conseil. Et j'espère que le Conseil va procéder pour vérifier la procédure contenue dans les traités. J'espère qu'il va faire ça. Le Parlement, sur la question, s'est prononcé avec chiarezza, clairement.
Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui, David Sassoli.
Merci.
Merci à vous.
Le président du Parlement.
Je m'excuse pour mon français.
Il est excellent.
Voilà, merci de nous avoir suivis et très prochainement, donc, un nouveau journal sur les antennes de RFI et sur France 24.
À très bientôt à tous.